Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Blavier et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Cette semaine, je vous propose un épisode spécial du podcast enregistré dans le cadre du Podcaston afin de mettre en lumière des associations et des organismes à but non lucratif. Par mon travail, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Réalise tes rêves qui a accompagné l'un des programmes que je suis. C'est lors d'un atelier que j'ai eu la chance de rencontrer Myriam Kerifa, révélatrice de talent au sein du dispositif Réalise tes rêves. Pendant notre conversation, nous sommes revenus sur le parcours de Myriam et son année à Montréal qui lui a insufflé l'envie d'entreprendre et bien sûr, nous avons accordé une attention particulière à Réalise tes rêves et à ce que permet ce programme à celles et ceux qui ont l'envie d'entreprendre. Si vous avez aimé cette conversation et que vous avez envie de soutenir ce travail qui est la création d'un podcast indépendant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à le noter, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. C'est par ces actions que le podcast sera visible, alors merci à vous. Maintenant, je laisse la place à Myriam et à cette conversation lumineuse que nous avons eu la joie d'enregistrer ensemble. Bonne écoute! Bonjour Myriam.
Bonjour Claire.
Alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole.
Avec grand plaisir.
Alors je suis très heureuse de te recevoir Myriam dans un contexte qui est un peu particulier parce que cet épisode est diffusé dans le cadre du Podcaston qui est une semaine qui permet de mettre en lumière des initiatives, des choses qui se passent par des associations, de l'accompagnement, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre et qu'on enregistre cette conversation ensemble. Mais je vais peut-être d'abord te laisser te présenter, si tu veux bien.
Alors moi, c'est Myriam Kerifa, j'ai 29 ans et je suis consultante en marketing et formatrice, donc aussi bien dans le supérieur, donc dans des universités ou des écoles, mais aussi dans des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises, dont on parlera un petit peu plus... précisément plus tard. Et donc je suis indépendante. J'ai commencé à travailler dans ce secteur en 2020, pendant la période Covid. Et puis depuis, j'ai pas commencé en tant que consultante et en tant que formatrice. C'est très rigolo. J'ai commencé d'abord en tant que freelance en communication, community manager, où du coup je faisais, les entreprises faisaient sous-traiter la création de leur contenu et des missions communication ou de rédaction web. Par mes services. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure des clients, c'est chapeauter une nouvelle activité toujours de manière indépendante autour du consulting et de la formation plus précisément aujourd'hui.
D'accord. Et alors, je reviens sur tes études, Myriam. Qu'est-ce que tu as fait comme études, toi?
Alors, j'ai validé un bac économique et social à l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Okay. Ensuite, je suis rentrée en BTS communication, donc dans lequel j'ai vraiment appris le côté opérationnel de la communication. Et puis, je suis rentrée en troisième année de licence à l'IUP Infocom de l'Université Lille 3 à l'époque, qui est devenue l'Université de Lille. Où là, du coup, j'ai fait la licence, le master 1, le master 2 en communication interne-externe. Et donc là, c'est plutôt des études où on apprend l'aspect théorique. Et en fait, c'est normalement un cursus qui est plus fait pour des profils chercheurs en communication,
d'accord,
en information et communication et en sciences humaines plus globalement. Mais j'ai choisi de continuer dans cette voie-là pour pouvoir vraiment arriver à atteindre des postes plutôt stratèges en communication et en marketing plutôt que de rester sur les aspects opérationnels.
Voilà. Ok. Donc, à la sortie d'Infocom.
Et donc, à la sortie, je suis... j'étais très... j'avais pas tellement envie de m'insérer tout de suite, de trouver un travail type CDI, entreprise. J'avais l'impression que j'avais pas encore tout vu. Ouais. Et donc, j'ai un peu sur un coup de tête. Et pareil, hein, c'est un, je pense qu'on y reviendra souvent si on parle un peu de mon parcours, mais c'est toujours en fait des petites rencontres un peu impromptues, pas forcément des personnes qui constituent mon entourage très proche, qui sont venus semer des graines, qui en fait sont devenues des grandes choses dans ma vie. Et donc là, pour la petite histoire, j'étais un petit peu perdue en me disant oui, ben, il faudrait que je trouve un travail parce qu'économiquement, ben, il faut s'insérer et puis voilà, il faut faire un peu sa vie. Et de l'autre côté, j'étais un petit peu en mode aventure et j'ai rencontré un ami du lycée dans un bar lors d'une sortie okay. à qui je me confie. Il y avait la fameuse question de... mais du coup, quoi de neuf ? Ben, j'étais là, je sais pas ce que je veux faire. Là, j'ai envie de m'amuser, d'aller découvrir autre chose, voilà. Et il m'a dit, mais tu sais, moi, je te verrais bien partir un petit peu, sortir un peu de la ville, puisque j'avais fait mes études à Lille et les alentours, mais j'avais pas vu grand-chose autour. Et donc, le lendemain, j'envoyais des candidatures à l'étranger, un petit peu partout, mais particulièrement au Canada.
Oui.
Et en fait, ça s'est fait très vite. J'ai été recrutée très, très rapidement sur 2 entretiens. Et donc, au bout du deuxième entretien, j'avais pris les choses très légèrement, mais au bout du deuxième entretien, on me dit, bon, ben, c'est bon, en fait, c'est toi, et donc tu pars dans 2 mois. Voilà, on okay. t'attend.
au Canada, donc, du coup.
Au Canada, okay. à Montréal, précisément. Et donc, bah, j'ai pris la vie comme elle était. Et c'était pas forcément vraiment dans les plans, mais je suis partie. Et donc, au Canada, j'ai exercé en tant qu'animatrice de communauté.
Okay.
Donc, ce qu'on appelle community manager. Mais la particularité, c'était que c'était online et offline. Donc, j'avais cette partie réseaux sociaux, mais j'avais aussi la mission d'animer la communauté. Et donc, c'était dans le secteur de l'entrepreneuriat. C'était dans un accélérateur de start-up à Montréal des industries culturelles et créatives. J'avais aussi la mission, du coup, d'animer la communauté d'entrepreneurs sur place. Donc via des événements, en étant aussi celle qui devenait un peu la médiatrice de tous ces entrepreneurs.
Ouais, de créer du lien en fait.
Exactement, okay. On avait des entrepreneurs qui avaient des... alors c'était plutôt des startups et ils avaient des stades d'avancement très différents et il y avait différents programmes du coup d'accompagnement et d'accélération surtout qui est cœur de métier de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui s'appelle La Piscine. Et donc du coup je devais vraiment aller à la rencontre et pour la petite histoire et ça fait vraiment du lien avec tout ce qui s'est passé après j'avais déjà un attrait pour l'entrepreneuriat à ce moment-là mais plutôt en me disant ben, peut-être un jour mais c'est pas du tout dans les plans voilà ouais. Et cet attrait dans l'entrepreneuriat je l'avais communiqué au directeur, mon superviseur du coup. Et il m'avait dit, bah, écoute, on a un programme d'accélération qui s'apparente plutôt à de l'incubation pour des jeunes startups qui sont déjà créées, qui travaillent. Alors, tu n'as peut-être pas de projet, mais si tu veux, tu peux carrément l'infiltrer. C'était tous les mercredis, je me souviens, les programmes d'animation. Tu peux l'infiltrer pour pouvoir créer du contenu directement auprès des entrepreneurs, te faire connaître des entrepreneurs et vraiment rentrer dans l'équipe d'entrepreneurs. Et puis toi, si tu peux prendre en plus, te former sur ces séances du mercredi pour ton futur projet professionnel, eh ben, c'est tout bénef. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an.
Ok.
Voilà. Puis je suis rentrée en France.
Ok. Tu es restée combien de temps, du coup, à Montréal ?
Je suis restée 1 an.
1 an, ok.
Voilà, comme c'était prévu. Et puis je suis rentrée juste avant le Covid. Enfin, juste avant le premier confinement en France.
Et ça t'a apporté quoi, en fait, d'aller au Canada ?
Ben, d'aller voir... alors, j'ai été délestée de beaucoup de choses sur la manière de travailler. Alors, je travaillais avec des Français, quasiment exclusivement... mais il y avait un management qui était un petit peu plus horizontal que j'avais pas forcément eu l'habitude d'avoir en France. J'ai rencontré aussi une diversité de personnes avec des parcours totalement différents et beaucoup, beaucoup d'expats. Puisque, en fait, surtout à Montréal, on a une diversité de cultures.
Ouais.
J'ai découvert aussi le monde des startups, de l'entrepreneuriat. Donc, dans lequel je me faisais une idée, mais que je ne connaissais pas vraiment. J'ai appris à connaître aussi les industries culturelles et créatives, qui sont en fait très très vastes. Mais du coup, j'ai appris à connaître le monde culturel, puisqu'en fait, on rencontrait des personnes aussi bien du Cirque du Soleil que des personnes qui créaient des mappings sur des façades de monuments, que des personnes qui travaillaient au sein de festivals musicaux à Montréal. Donc vraiment de pouvoir toucher à des secteurs d'activité qui sont très différents et qui sont très... Alors qu'il allait dire qu'ils sont très éloignés du mien, mais pas vraiment, puisque en fait la communication, ça fait partie des industries culturelles et créatives, et je l'ai appris aussi sur place. Et puis j'ai, pendant cette année à Montréal, j'ai aussi essayé de déconnecter de tout ce que je voyais en France, donc je ne suivais plus les actus.
Ouais.
Je profitais du décalage horaire pour vraiment essayer de faire une césure avec ce que je connaissais de la France, donc, y compris mes proches, hein, c'est pas, pour essayer de vraiment me mettre dans une bulle un peu personnelle. Et j'ai aussi appris à me connaître, du coup, puisque quand on est tout seul à plusieurs milliers de kilomètres et puis qu'on voit plein de nouvelles choses, qu'on est dans une entreprise qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a déjà vu auparavant. J'ai rencontré Thierry Mugler, par exemple, à Montréal. C'était pas du tout forcément ce que je m'étais imaginé. Et c'était une opportunité de dingue pour moi. Et donc, j'essaie de me créer cette bulle un petit peu réconfortante pour me dire, tiens, là, c'est un an qui sont pour toi, dans laquelle tu vas pouvoir tester plein de nouvelles choses, rencontrer plein de personnes. Et puis, se laisser porter un petit peu, de se dire, s'il y a des opportunités, on les prend. Et puis sinon, on rentre et puis on reprend la vie là où elle était, et c'est très bien aussi.
D'accord.
Pas de pression.
Et sur la vie là-bas ?
Sur la vie là-bas, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur.
Oui.
Très, très peu de temps dans ma colocation. Et je partais vraiment de très tôt le matin pour rentrer très tard le soir. Et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de choses, mais qui m'a aussi beaucoup fatiguée. J'avais cette soif de sortir, voir tout ce qu'il y avait. J'avais l'impression qu'un an, c'était court et long. Et que du coup, il fallait que je voie absolument tout. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup en concert ou qui sortait beaucoup en soirée ou en festival. D'ailleurs, je le fais pas actuellement beaucoup, mais à Montréal, j'étais de tous les festivals, j'étais de toutes les soirées, j'étais de tous les after-work. Y avait aussi des festivals culinaires, c'était pas forcément des festivals musicaux. Mais c'est vrai qu'à Montréal, la particularité, c'est que, en tout cas, la ville met un grand accent sur l'accès à la culture gratuitement. Et donc, on avait festival de jazz, festival du rire, festival de musique électronique tous les week-ends, tout l'été. Donc, on a accès à plein d'activités culturelles. Et du coup, on se pose moins la question. Mmh. Et aussi, dans cette envie de voir du monde, de découvrir des nouvelles choses, je me laissais porter aussi au gré des rencontres. Donc, puis sortir un petit peu de la ville, aller voir un peu de la nature aussi.
Ouais.
Découvrir aussi ce que c'est qu'une vraie métropole nord-américaine, donc avec des quartiers un petit peu plus bruyants, avec une vie un petit peu plus rythmée qui ne s'arrête peut-être jamais. Donc voilà, je trouvais que c'était le bon endroit pour découvrir tous ces aspects-là et du coup en apprendre un petit peu plus sur soi-même.
Ouais. Oui, après, c'est finalement, tu te rencontres toi-même et puis en même temps, peut-être tu as découvert aussi des choses que tu aimes, que tu aimais, dont tu ne pensais pas forcément que ça allait te plaire, j'imagine.
Bah déjà, cette appétence à l'entrepreneuriat, elle s'est confirmée puisque en fait, je me suis rendu compte en discutant et en étant en contact des entrepreneurs au quotidien que c'était quelque chose qui était possible.
Okay.
Alors que dans ma tête de jeune femme, donc j'avais 24 ans à l'époque, l'entrepreneuriat, je le voyais comme peut-être un objectif que j'aimerais bien moi atteindre de façon, enfin comme un challenge dans une vie vraiment future, donc plutôt en milieu de carrière, plutôt dans ma quarantaine, voire beaucoup plus tard, voire après ma carrière. Et en fait, j'ai rencontré des gens plutôt jeunes et moins jeunes, mais le dénominateur commun, c'était juste des personnes qui avaient envie de créer et qui avaient des parcours, mais il y a des personnes qui avaient des carrières de dingue, comme des personnes qui étaient très jeunes comme moi, et en fait, finalement, qui disaient, ben tiens, pourquoi pas moi ? J'ai envie de faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai changé un petit peu mon regard sur l'entrepreneuriat et sur ce que c'est que d'être entrepreneur aussi. Mm-hmm. Que en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait partie du commun des mortels aussi. C'est pas forcément des figures fabuleuses comme parfois on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans d'autres médias. L'autre chose aussi, c'est que ça a confirmé, parce que je pense que j'avais déjà cette appétence-là, mais d'être entourée de beaucoup de personnes. J'adore les humains, j'adore les hommes avec un grand H, j'adore hommes et femmes. J'aime bien les nouvelles rencontres, j'aime bien les environnements changeants dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. J'ai pas peur du changement, et ça s'est confirmé pendant mon expérience. Et donc j'ai besoin, je sens que je suis très, comment dire, très sensible à mon environnement. Et que du coup, j'ai besoin d'avoir tout le temps des petites rencontres, de rencontrer beaucoup de personnes, de m'enrichir de ces rencontres-là. Et j'espérais, moi, à l'époque, pouvoir un jour aussi enrichir d'autres personnes.
Okay.
Voilà, j'étais jeune, j'avais pas vu grand-chose. Donc, j'estimais que j'avais pas forcément grand-chose à donner à ce moment-là. Mais je me disais, tiens, ces personnes, elles m'apportent beaucoup. Et j'aimerais bien un jour pouvoir faire la même chose à mon échelle, du coup, plus tard.
Et donc, au bout d'un an, tu décides de revenir en France ?
C'est ça. Donc, je rentre en France comme c'était prévu.
Oui.
Je rentre en fin d'année 2019. Mmh. Et donc là, je suis en recherche d'emploi.
Okay.
Là, je me dis, bon, c'est bon, j'ai vécu mon expérience, donc je vais aller chercher un emploi et je me dirige vers un emploi qui est plutôt durable, donc de type CDD longue durée, CDI, plutôt dans une entreprise de taille moyenne, voire grande, puisque je voulais être dans un environnement avec beaucoup de personnes et avec des missions un peu challengeantes. Avec une marge de manœuvre, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'expériences, notamment en stage dans des petites entreprises, et c'est vrai que les réalités, elles sont différentes. Je ne suis pas très emballée par ma recherche d'emploi. Je trouve ça très redondant. Les entreprises dans lesquelles je postule, les postes, en fait, ne me plaisent pas tellement. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas le
audio, là, comme on dit.
Je ne suis pas très inspirée. Je me dis, je ne suis pas très, très emballée.
Ouais, tu dis, ouais, si tu n'as pas un truc genre, ouais, j'ai envie de travailler là-bas,
non,
pas vraiment.
Non, il n'y a aucune. J'avais fait des candidatures spontanées, puis j'ai répondu aussi à des offres qui étaient disponibles. Et c'est vrai que déjà, c'était pas très. Enfin, j'avais pas énormément de réponses. Et en plus de ça, franchement, je pense peut-être que ça s'est ressenti. J'avais pas beaucoup d'excitation à l'idée d'aller travailler dans ces secteurs-là.
Donc, okay.
Donc, dans des postes de chargée de communication, plutôt. Puisque je considérais que j'avais encore un profil junior à ce moment-là. Et puis vient le confinement.
Eh oui.
En fait, juste avant, je discute encore une fois avec une personne. Une personne qui était aussi à l'école avec moi, qui est aussi la fille d'amis de mes parents. Voilà. Et on discute, ça faisait des années qu'on s'était pas... On ne s'était pas parlé, puis elle me dit, écoute, moi je travaille pour telle entreprise à Paris, puis on a besoin de quelqu'un de manière urgente pour prendre des missions de rédactrice web. Je lui dis, écoute, moi je suis libre comme l'air, je suis dans ma recherche d'emploi, si vous avez des besoins d'extra. Je suis là, elle me dit, le seul truc c'est que du coup, il faut être freelance.
Mm-hmm.
Et donc je lui dis, ok, laisse-moi juste 24 heures pour aller me renseigner sur ce que ça implique de devenir indépendant et laisse-moi m'équiper, puisqu'en fait, pour partir au Canada, j'avais plus d'ordinateur, plus rien, j'avais tout vendu, j'étais partie avec rien du tout faire mon aventure.
Ouais.
Donc, je venais de rentrer, j'avais vraiment pas grand-chose. Et donc, je me dis, et laisse-moi le temps de m'équiper aussi, puisque
forcément
pas de quoi faire mon job, en fait. Et au bout de 24 heures, donc pendant 24 heures, je suis sur YouTube. Et je tape auto-entreprise, rédacteur web, voilà, tout. Et je me forme, je me micro-forme pour essayer de comprendre si je suis capable ou pas de me lancer.
Ouais.
Et au bout de 24 heures, je me dis, bon, ben, ok, go. Le lendemain, je vais m'acheter un ordinateur.
Mm-hmm.
Je me dis, allez, hop, on y va. J'étais au chômage, donc j'avais pas énormément de moyens.
De moyens, ouais.
Et donc j'y vais, j'achète mon ordinateur. Et je me souviens, il y avait un café dans le centre commercial dans lequel j'y allais tous les jours pour postuler, qui me voyait absolument tout le temps. Je leur dis, cette fois-ci, c'est bon, j'ai une mission. Je pense que ça va être de courte durée. Je déballe mon ordinateur à même le café. Donc ils sont tous contents pour moi. Limite, c'est devenu un membre de l'équipe, parce que j'étais tellement là tous les jours, qu'ils me voyaient tout le temps. Et puis je commence cette mission en freelance, on rentre en confinement. Là, on est en mars.
Ouais.
Et donc, je me retrouve chez moi, toute seule. Et je me dis, de toute façon, ta recherche d'emploi n'avancera pas. Puisque j'avais décroché un entretien juste avant le premier confinement.
Oui.
Où on m'a juste dit, ben, finalement, on verra quand est-ce qu'on sera déconfiné. Et puis là, peut-être qu'on fera un entretien. Donc, la seule piste que j'avais...
Tu la mets de côté, quoi,
je la mets de côté. Et puis, à l'époque, on ne sait pas, on en a pour combien de temps.
Ah oui,
pas,
on est, c'est l'incertitude totale.
Si on est sur 4 ans. Donc, je suis un peu désespérée. Je prends cette mission-là et je la fais. Et je suis un petit peu désespérée en me disant, bon, bah, je vais... En fait, les astres sont contre moi. Je vais jamais trouver un emploi dans la situation actuelle. On peut même pas se voir. Quelle entreprise recruterait quelqu'un à ce moment-là alors que même eux, ils ne savent pas trop comment
travailler. Oui, il y avait tellement d'incertitudes et tout. Ouais.
Et en fait, finalement, je me dis, bon, ben, c'est bon, t'as lancé ton auto-entreprise. Donc, le seul moyen de pouvoir travailler maintenant, c'est d'aller chercher des clients. Et donc, en fait, ben, je me mets à prospecter.
OK.
Parce que je n'avais que ça à faire, en plus de ma mission de rédactrice web, qui me prenait un des jours par semaine, mais pas plus. Et donc, je commence à prospecter, et puis je commence à en parler autour de moi. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure que je le raconte aux gens autour de moi, sans grande conviction, parce que je ne m'imaginais pas que ça deviendrait un temps plein, cette histoire. Mais en fait, on me dit, bah tiens... j'ai peut-être un truc pour toi et j'ai peut-être un truc pour toi. Et donc, de fil en aiguille, ben, je me retrouve à avoir une activité de freelance.
Ok.
Florissante.
D'accord.
Voilà, très simplement. Et donc, en juin, et alors, pareil, au fil d'une discussion vraiment encore avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, qui me dit, à qui je dis, bah, écoute, je fais de la communication, je fais du marketing. Si jamais il y a des besoins dans ton entreprise, où est-ce que tu travailles, un jour, n'hésite pas à penser à moi. Donc voilà, un peu bouteille à la mer. Mmh. Et puis, quelques semaines plus tard, il me rappelle. Il me dit, ben tiens, Myriam, j'ai le dispositif dans lequel je travaille qui a besoin de quelqu'un pour de la communication. Je ne sais pas si c'est un contrat ou si c'est en freelance, mais en tout cas, on a besoin de quelqu'un là, maintenant, tout de suite. Est-ce que tu es prête? OK. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez RTR, Réalise tes rêves.
D'accord, ok.
Et on en est à... Bon, ça, c'était il y a 4 ans. Ouais. Donc, on en est presque à aujourd'hui. Voilà. Et donc, chez Réalise tes rêves, qui est devenu un client avec lequel je travaille encore aujourd'hui, j'ai commencé en faisant des flyers, reprenant les réseaux sociaux, donc avec l'émission de chargée de communication et en étant en charge du sourcing des futurs porteurs de projets.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc c'est comme ça que tu rencontres finalement ce programme.
Exactement.
Ok. Et donc tu travailles pour Réalise tes rêves, mais de ce que j'ai compris, tu ne fais pas que ça non plus.
Non. Donc j'ai commencé à travailler de manière très intense avec Réalise tes rêves. J'avais quelques porteurs de projets qui faisaient appel à moi, qui étaient dans mon réseau. Donc j'avais un traiteur, j'avais quelqu'un qui travaillait dans les cosmétiques qui faisait appel à moi soit pour de la stratégie ponctuelle ou soit pour des questions, du consulting. Donc c'était des petites missions. J'ai bien compris qu'en faisant ça, je ne payerais pas mes factures ou je n'en tirerais pas un métier durable. Et donc pareil, au fil des rencontres, j'ai commencé à communiquer davantage sur mes réseaux sociaux, notamment LinkedIn. J'avais une communication sur LinkedIn qui marchait très très bien et donc j'ai commencé à faire connaître que j'avais une activité indépendante, que je travaillais pour des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise. Et donc il y a d'autres dispositifs à la création d'entreprise qui ont été intéressés par mes services, mais cette fois-ci plutôt sur de la formation avec cette casquette communication marketing. Donc j'ai animé des petites conférences, des petites formations, j'ai animé quelques petits événements. Enfin, en tout cas, j'avais peut-être une heure à moi dans un événement pour pouvoir transmettre des choses, proposer des activités ludiques autour de la communication marketing pour les porteurs de projets. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu mes anciennes écoles qui m'ont recontactée en me disant « bon, on aime bien ce que tu fais et et on voudrait que tu viennes travailler chez nous sur de la formation. Donc voilà, on a des modules qu'on pourrait te confier et sur l'entrepreneuriat et sur la communication et sur le marketing. Et donc voilà, il me proposait des choses et de fil en aiguille, j'ai dit oui à une école. Puis il y en a une autre qui m'a contactée. Puis j'ai rencontré une autre personne qui est devenue mon apporteur d'affaires et qui m'a mis sur d'autres missions en formation. Et donc là, du coup, j'ai un portefeuille aujourd'hui de 7 clients avec lesquels je travaille toute l'année. Donc à la fois sur du consulting, de l'accompagnement et de la formation.
D'accord. Et alors ça te fait quoi de te retrouver quelque part de donner des cours?
Alors c'est très rigolo parce qu'en plus on ne me voit pas, mais je fais très jeune. Enfin, alors je fais jeune, j'ai plutôt l'allure d'une femme de 25 ans plutôt qu'une femme de 30 ans. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette réaction quand... Enfin, moi, j'ai pas dormi de la nuit, la nuit avant de donner mon premier cours.
Oui. Pourquoi ? Parce que t'étais stressée ?
J'étais complètement insomniaque parce que je m'imaginais les scénarios catastrophes. Je me disais, mais quelle est ma légitimité à aller donner cours ? Et en même temps, quand on image un petit peu l'ange et le démon, j'avais un petit peu l'ange qui me disait, oui, mais en même temps, on t'a appelé toi, donc c'est que c'est bon, en fait. Et puis j'avais le démon qui me disait, non, mais en fait, peut-être qu'ils pensent que t'es génial alors qu'en fait, t'es pas génial et que tu vas faire n'importe quoi. Je ne savais pas mesurer totalement le temps que je passais. Je créais des cours, mais c'était... Alors, de la formation pour adultes dans des dispositifs, c'est une certaine pédagogie.
Oui.
De la formation plutôt dans le supérieur, dans des écoles...
C'est
encore autre chose, puisque du coup, il y a un rapport aussi à la théorie et à la pratique qu'il faut trouver. Toutes les informations, alors même si c'est orienté très professionnel pour certaines écoles, il faut quand même pas sortir des informations d'un chapeau. Et donc, il faut quand même faire ce travail de... il y a la théorie, exactement, de trouver des ressources. Et puis aussi de les mettre en pratique. Et en se disant, j'ai pas une carrière de 15 ans non plus, ou de 20 ans. Donc, il faut que je sois impactante assez pour qu'en fait, on me fasse confiance et qu'on veuille bien croire ce que je raconte. Donc, j'ai vraiment travaillé sur ça. Et donc, je dirais que si s'il devait définir un petit peu ma posture en tant qu'intervenante ou en tant que formatrice, notamment dans les écoles, j'anime et j'incarne beaucoup les cours que je donne plutôt que de donner de l'information plutôt descendante. Et j'ai conscience aussi, pour avoir quitté l'école il n'y a pas si longtemps que ça, que moi, j'aimais pas du tout rester assise très, très longtemps. Du coup, j'aime bien aussi les faire bouger, les faire sortir. Donc, on va parfois... j'ai la chance, en plus, d'être dans des modules, des matières, entre guillemets, qui sont plutôt sympas, comme du marketing, où on va directement dans les magasins, où on va directement rencontrer professionnels, où on va mettre en pratique sur des cas concrets des choses. J'essaie de trouver beaucoup de ressources vidéo, multimédia aussi, pour pouvoir... couper un petit peu les cours et pour vraiment... En fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est que les personnes soient engagées dans le contenu que je vais donner en formation et pour des raisons simples de mémorisation et d'assimilation du contenu et aussi pour faire en sorte de travailler une expérience qui soit favorable et plus ils vivent une expérience intéressante pendant mes formations et mes cours, plus ils sont engagés dans mes cours. Et donc, du coup, je peux aller chercher de l'interaction et pour eux, et pour moi, c'est un moment agréable.
Ok.
En gros, c'est pour ça. Et pour les entrepreneurs, c'est pareil. On essaie d'incarner un maximum. Mais la différence, c'est que les entrepreneurs et les porteurs de projets, ils savent pourquoi ils
sont là, quoi.
Ils sont là. Ouais. Et ils savent aussi qu'ils peinent sur certains points, notamment sur le marketing. On l'envisage beaucoup sur la recherche de clients et l'acquisition de clients. Donc du coup, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien qui se passe. Donc j'essaie en tout cas dans les formations de garder ce fil rouge, de dire écoutez, ça c'est en lien avec du commercial et c'est ce qu'il vous faut, c'est le nerf de la guerre pour aller chercher des clients et de l'argent. Et donc forcément là, c'est engageant, puisqu'ils savent pourquoi ils sont là.
Ouais. Et alors du coup, ce premier cours, ça se passe comment ?
Très très bien.
Ouais.
Alors j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui n'était pas très très nombreux. Ça se passe très très bien. C'est un cours de comportement du consommateur.
D'accord.
Pour une classe qui était en communication avec une spécialité mode. Donc j'avais un peu... j'avais essayé de... faire en sorte que le contenu et les exemples que j'avais donnés soient très axés mode, pour que ça leur parle un maximum. Et les étudiants que j'ai eus à ce premier cours, c'est des étudiants avec lesquels je suis toujours en contact, avec lesquels je suis un petit peu leur parcours. Il y en a certains qui sont partis à Paris, il y en a certains qui sont restés dans l'école que j'ai encore eue jusqu'à aujourd'hui, qui sont en Master 2, ils sont en fin de sortie. Et ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et déjà, j'ai trouvé ça cool parce que si on m'avait dit il y a 5-10 ans que j'allais donner des cours dans une école, j'aurais rigolé parce que je n'aurais pas voulu faire ça. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, j'ai senti que ça avait aussi beaucoup plu aux étudiants. Et j'ai eu des retours positifs aussi qui m'ont donné envie, en fait, de cette aventure un peu... Pour moi, c'était ponctuel. Mais de m'engager un petit peu plus. Et que si on me proposait des choses, ben, vraiment essayer d'aller plus loin... dans ce projet-là.
Ok.
Donc, très agréable. C'est très sympa, je m'en souviens encore.
Tu m'étonnes. Et donc, après, donc toi, tu as cette partie enseignement et toujours cette partie consulting. Mmh. Comment tu arrives à gérer, à allier les deux dans ta semaine ?
Alors, en fait, j'ai tout ce qui est enseignement, c'est ponctuel. Donc, c'est soit des créneaux horaires de 2 heures, soit des demi-journées.
Okay.
Donc ça, je ne suis pas libre dans mon emploi du temps. C'est les écoles qui les imposent sous réserve de ma disponibilité. Donc ça, c'est dans mon agenda. Et puis, ça me prend... alors, ça dépend des périodes, mais il y a des périodes où j'ai pas du tout... Par exemple, c'est les vacances, donc là, j'ai pas du tout
pas de cours.
Ouais. J'ai des périodes où j'ai beaucoup, beaucoup de modules. C'était le cas au mois de janvier, par exemple. C'était le cas aussi au mois de novembre. Mais en dehors de ces périodes-là, moi, je suis encore très occupée sur les cours jusqu'à fin avril. Mais après, j'ai beaucoup, beaucoup de temps à consacrer à d'autres choses. Donc, en dehors de ces périodes de cours imposés du coup par les écoles, tout le temps qui me reste dans ma semaine est consacré au dispositif pour lequel je travaille, donc pour RTR. Pour l'instant, c'est l'un des seuls dispositifs avec lesquels je travaille encore. Et donc, c'est dès que je suis disponible, je m'engage comme ça. Et alors, j'ai la chance, comme c'est arrivé petit à petit, hein, toutes ces formations, j'ai la chance d'être avec une équipe que je connais déjà depuis 4 ans. On se connaît très très bien et on travaille très très bien ensemble. Et donc, du coup, on arrive vraiment à faire coïncider nos agendas, faire en sorte qu'on travaille en bonne intelligence pour pouvoir avoir le temps de tout faire, pour pouvoir se contacter parfois le soir, contacter aussi sur des temps de midi. Mais donc, c'est assez rythmé. Mais je ne me rends pas forcément compte au quotidien.
Ok.
Je suis un petit peu dans la roue de l'hamster, mais, mais je pense que c'est très rythmé, pardon.
Ok, super. Et justement, pour parler de Réalise tes rêves, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement ?
Donc Réalise tes rêves, c'est un dispositif d'accompagnement. Alors à l'époque, en tout cas en 2019 et 2020, quand ça a été lancé, on accompagnait des jeunes plutôt, donc une cible plutôt 18-30 ans, soit vers l'emploi durable, soit vers l'entrepreneuriat durable. Et par durable, en fait, ça a un petit peu deux sens. Il y a l'aspect durable, alors avec des objectifs de développement durable, mais il y avait aussi cette notion de durabilité dans le temps. Donc on est un dispositif d'insertion professionnelle avant tout. Donc l'idée, c'était d'accompagner des jeunes plutôt éloignés de l'emploi vers un emploi durable ou un projet entrepreneurial durable, avec la particularité de partir de leurs aspirations à eux, et pas forcément des cases disponibles sur le marché du travail.
Okay.
Voilà. Alors, évidemment, cet aspect a ses limites, mais en tout cas, on avait une approche qui était très centrée sur les envies de la personne plus que sur les métiers en tension ou les marchés porteurs.
D'accord.
Voilà. Et donc, pour cela, on avait deux parcours. Un parcours emploi, avec lequel on travaillait de manière très, très rapprochée avec les missions locales, en tout cas dans le nord de la France. Et un parcours entrepreneuriat, qui a été vraiment un défi d'ingénierie pédagogique pour pouvoir créer un parcours qui soit fait aussi bien de formation et d'ateliers, de temps aussi de mise en application et de prototypage, de temps de sortie aussi et de lieux ressources. Ça a été un défi aussi par rapport à la temporalité 2020, confinement, Covid. Donc ça, c'était vraiment un défi pour nous, en tout cas sur le lancement. Donc ça, c'était une première session de Réalise tes rêves. Le projet, il a évolué pour une session qu'on a appelée RTRX, RTR Extension. C'est devenu un dispositif qui s'est concentré beaucoup sur l'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat, puisqu'on s'est rendu compte que ce qu'on proposait pour l'insertion professionnelle via l'emploi, en fait, les missions locales le faisaient très très bien avec leur dispositif déjà en cours. Pôle emploi le faisait, France Travail maintenant, le faisait très bien avec les dispositifs qui étaient déjà existants. Et nous, on n'avait pas une réelle valeur ajoutée par rapport à ces partenaires-là. Donc en fait, on s'est dit plutôt que de vouloir réinventer quelque chose qui, en fait, existe et fonctionne plutôt bien. En tout cas, nous, on n'a pas pu ajouter quelque chose de plus impactant. On va se concentrer sur les parcours vers l'entrepreneuriat, qui sont les parcours pour lesquels on a beaucoup de résultats et que pour le coup, nous pensons que nous avons de la valeur ajoutée.
Ok.
Et donc, on a retravaillé les maquettes du parcours vers l'entrepreneuriat et on l'a fait devenir diplômant. Et donc, ça permettait de pouvoir, pas certifié, mais diplômé en tout cas, les porteurs de projets qui soutenaient lors de leur parcours pour des personnes qui ont un niveau d'études si les chiffres sont bons, qu'on avait bien 30% de nos candidats qui n'avaient pas le bac.
D'accord.
Donc ça permettait de leur donner un premier diplôme en réalité. Okay. Voilà. Et puis on avait d'autres qui avaient fait en début, qui avaient le bac ou rien d'autre derrière, ou bien des débuts d'études, mais qui n'avaient pas été jusqu'à l'obtention d'un diplôme de licence, par exemple.
Ok. Et comment ça se passe, le recrutement, tu vois, des personnes qui, pour intégrer le programme de Réaliser tes rêves ?
Alors, nous, on a une politique on a une cible, j'ai rappelée, de 18-30 ans. On considère aussi que les femmes, être une femme est un critère de vulnérabilité. Donc, du coup, pour les femmes, on a élargi la tranche d'âge. On disait qu'une femme de tout âge pouvait rentrer dans notre dispositif, en partant du principe qu'elle avait un critère de vulnérabilité pour plein de raisons. Mais on a une politique où on dit non à personne. Ça veut dire que c'est arrivé qu'on ait des hommes de plus de 30 ans qui rentrent dans nos parcours. Puisqu'en fait, nous, le mot d'ordre en fait, pour rentrer dans l'un de nos parcours, c'est de vouloir d'avoir l'envie. C'est même pas d'avoir le projet, c'est d'avoir l'envie de créer quelque chose et l'envie de s'insérer via un projet de type entrepreneurial.
Okay.
Donc à partir de là, on se disait qu'on disait non à personne. Et pour recruter, donc on a été directement à la rencontre de ces cibles-là. Donc pour cela, il y a eu un travail de maillage partenarial qui s'est fait vraiment... c'était vraiment le fil rouge de nos missions. Donc de travailler avec les missions locales, renforcer le travail avec des missions locales. On a travaillé avec Pôle emploi, beaucoup, notamment dans les zones dans lesquelles... notamment la zone de Roubaix dans laquelle on a implanté. On a travaillé aussi avec des associations locales. On a eu un lieu aussi en plein cœur de Roubaix avec lequel on a créé du lien avec les habitants du coin.
Okay.
On a travaillé avec Villogia aussi. Et donc, Villogia a essayé aussi, participé au partenariat en mettant à disposition des moyens matériels, donc notamment des locaux, mais aussi en proposant nos parcours à leurs locataires.
Oui.
Pour pouvoir proposer des solutions à des locataires qui, peut-être, étaient sans emploi pendant une certaine période de temps. Donc, ça s'est vraiment fait plutôt en bouche à oreille. Après, on avait effectivement des plateformes externes comme nos réseaux sociaux, un site internet. Mais c'est vrai que, en réalité, tout notre sourcing et notre recrutement s'est fait plutôt via nos partenaires. Donc, ça veut dire les inviter régulièrement, se déplacer aussi à leurs événements, parce que pour nous, c'était vraiment le lien qui nous manquait vers la cible que nous avions. Voilà.
Okay, super. et est-ce que ça a un coût pour les personnes qui viennent dans ce dispositif ?
Ah non, c'est très important de le souligner. Ouais. C'est un dispositif qui est 100% gratuit pour les bénéficiaires. Donc le dispositif est financé par l'État, par le ministère du Travail très précisément dans le cadre des dispositifs PIC. Et on a aussi d'autres financeurs, donc on a la région, on a le département, donc ça reste des financeurs publics. On a travaillé aussi avec AG2R, La Mondiale, la Banque des dépôts, BPI France, qui ont tous été des acteurs et des financeurs du projet qui nous permettent du coup de proposer l'intégralité de nos formations, de nos ateliers, de nos événements, de nos sorties de manière totalement gratuite à nos bénéficiaires.
D'accord. Et donc ça se déroule où en fait
Alors ça se déroule à Roubaix dans le centre-ville, donc on a un lieu qu'on a appelé le Pointé, qui est vraiment dans le cœur de ville, et c'est un lieu qu'on a pensé comme étant... un peu un lieu de vie dans lequel il y a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir, pour un porteur de projet, de pouvoir s'approprier le lieu. Donc on a des salles pour les formations, on a une salle qui est équipée de matériel informatique de type coworking pour pouvoir offrir un espace de travail calme quand c'est pas forcément possible. Alors moi je sais que personnellement je déteste travailler de chez moi. Donc d'avoir un lieu, un espace de bureau totalement gratuit dans le centre-ville de Roubaix, accessible en métro très facilement et ouvert tous les jours de la semaine, ça permet à nos porteurs de projets de pouvoir venir avancer sur leur projet de manière totalement indépendante sur place. Notre salle de formation se transforme aussi en salle d'événement.
Oui.
Donc c'est une salle qui se veut polyvalente. On a nos ateliers, nos formations dedans, mais on fait aussi nos after-work et les moments un petit peu détente. Et les moments détente, pour nous, ils s'ancrent vraiment dans la pédagogie du dispositif, puisqu'on travaille aussi bien sur les aspects entrepreneuriaux, montant en compétences, financement, mais aussi sur le travail de la personne et notamment pour sortir les porteurs de projets de l'isolement. C'est pas forcément des personnes qui ont été entourées de beaucoup d'entrepreneurs, c'est parfois des personnes qui vivent seules. Et donc ce qui est important, c'est de pouvoir les faire rencontrer leur père et donc de pouvoir faire rencontrer des personnes avec lesquelles ils vont pouvoir parler de leur projet auprès de personnes pour lesquelles ils vont être comprises. Et qui vont pouvoir partager leurs objectifs ou juste se lier d'amitié et rompre avec cet isolement qu'on peut avoir quand on est hors circuit scolaire ou hors circuit de l'emploi, qu'on ne retrouve pas ses collègues au quotidien. Donc voilà. Et puis sinon, on a nos bureaux, nous, du coup je parle de moi, et puis il y a mon collègue Benoît aussi qui travaille avec moi sur le dispositif. On a nos bureaux sur place, on a une salle de réunion. On a, très important, une cuisine qui nous permet aussi de pouvoir avoir des coins, café, restauration, de pouvoir aussi ramener ces snacks pour la semaine. Et du coup, c'est vraiment cette envie de faire en sorte que nous, en tant que professionnels, on s'approprie l'endroit, mais aussi que nos porteurs de projets ils puissent vraiment prendre leurs aises chez nous et pouvoir rester des journées complètes, travailler, vivre des moments de convivialité, voilà.
Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte finalement d'accompagner les bénéficiaires ?
Il y a cet aspect transmission. En fait, moi, je suis arrivée... Alors, je sais pas si on peut considérer le freelancing comme étant de l'entrepreneuriat, mais moi, je le considère comme tel en tout cas, puisqu'on est totalement indépendant. Il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Ça prend bien des visages. Mais en tout cas, de porter un projet, de porter une clientèle, pour moi, je le considère comme étant de l'entrepreneuriat. Et moi, j'y suis arrivée de manière un petit peu impromptue. Et j'y suis arrivée aussi dans un âge qu'ont les porteurs de projets actuels. Donc, j'ai envie de transmettre ce truc de... En fait, petit à petit, on peut construire un projet durable qui sort en fait du parcours classique du CDD ou du CDI, sans opposer les deux pour autant, puisqu'on n'est pas en train de dire un CDD, un CDI, c'est pas bien, bien au contraire. Mais on peut leur dire que vous pouvez, au lieu de passer par la porte, vous pouvez passer par la fenêtre, si vous n'arrivez pas à vous insérer durablement par l'obtention d'un emploi. Partez de vous ce que vous savez faire, partez de vos talents, et on peut ensemble construire quelque chose d'intéressant. Je trouve ça hyper gratifiant quand on rencontre une première personne. Forcément, on met beaucoup d'affect dans les personnes avec lesquelles on travaille. On apprend à connaître leur parcours, qui sont parfois semés d'embûches. Et donc forcément, il y a cet aspect, on met beaucoup d'affect dans cette relation, et donc on a envie de les accompagner, et donc de vivre des moments qui sont très forts pour eux d'obtention de premiers clients, de rencontres impactantes. J'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit de faire ci, qui a validé mon projet, de les emmener dans des événements particuliers auxquels ils n'auraient pas forcément accès. Parce qu'ils ne connaissent pas les lieux, parce qu'ils n'ont pas le réseau. De vivre tous ces moments avec eux et de recueillir aussi à chaud ceux qui sont en train de vivre, nous, en tant que personnes, c'est extrêmement gratifiant.
Oui, c'est sûr.
Et puis moi, ça a été aussi, d'un point de vue plus personnel, une opportunité de tester beaucoup de choses que je propose à d'autres clients aujourd'hui, puisque j'ai pu tester beaucoup de formations avec ce public de porteurs de projets. Parce que du coup, comme on est dans une dynamique très très proche est très, comment dire, bidirectionnelle, où nous, on se permet du coup de donner notre vision des choses sur les projets, sur leur parcours, mais on leur donne aussi l'opportunité de co-construire avec nous. Ben, j'ai eu l'opportunité de tester des choses, moi, que j'ai pu ensuite proposer à d'autres dispositifs ou d'autres, d'autres clients. Donc, d'un point de vue même plus personnel, ça a été extrêmement gratifiant. Et c'est pour ça qu'on ne le quitte pas, ce projet, et qu'on reste là et qu'on le développe avec mon collègue Benoît tant qu'on peut.
Ok. Et est-ce que pour toi, ça change quelque chose dans ta vie ? Enfin, tu vois, je veux dire... je trouve que c'est différent quand tu travailles pour quelqu'un dans une relation, on va dire, commerciale, enfin, classique. Mm-hmm. Et quand tu interviens, même si évidemment tu es rémunéré pour ce que tu fais, dans des dispositifs où tu accompagnes d'autres personnes, est-ce que du coup ça change aussi peut-être toi, ton rapport au travail, à l'action que tu peux avoir sur les gens ?
C'est vrai que parfois on ne le ressent pas forcément comme du travail. Oui. On a vraiment l'impression d'être investi d'une certaine mission. Et on a un certain engagement. Et comme je dis, on met beaucoup d'affect, du coup, dans cette mission-là. Parce qu'en fait, on a envie de voir réussir les personnes. On a envie aussi de pouvoir accompagner les changements. On vit aussi des... J'ai vécu des mariages avec nos porteurs de projets. On a vécu des moments aussi marquants. Parfois, ça crée aussi des frustrations parce que... Ben, comme tout dispositif d'accompagnement à la création d'activité, il y a des entreprises qui ne voient pas le jour.
Oui.
Il y a des porteurs de projets qui, en fait, décident de ne pas poursuivre parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas pour eux, parce qu'ils ont une autre opportunité, parce qu'il y a un malheur de la vie qui tombe et qui fait qu'ils peuvent pas, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel et émotionnel de pouvoir créer sa propre activité. Oui. En plus d'un investissement en temps, compétences, formation, voilà. Et donc moi en tant que professionnelle, si je prends un client classique en consulting où on a, je vais pas dire une obligation de résultat, mais en tout cas on est très focus résultat, acquisition client, vente, accroissement d'activité, accroissement de chiffre d'affaires, tandis que là on est plutôt sur donner les ressources. Et donc parfois ça peut créer des frustrations puisqu'en fait c'est pas nous qui sommes en commande. Ouais. C'est pas nous qui sommes en commande de la création d'entreprise. Parfois, on voit un porteur de projet qui est vraiment à vraiment un petit peu de créer, où on voit des opportunités de lui passer à côté, mais parce qu'il n'est pas disponible mentalement, ça crée parfois un peu des frustrations chez nous. Mais ça, c'est parce qu'on met encore une fois beaucoup d'affect dans les projets, parce qu'on aspire à beaucoup en fait pour nos porteurs de projets.
Oui, quelque part, tu t'investis.
En fait, on a l'impression d'être un peu partie prenante de chacune des entreprises qu'on accompagne, mais c'est important pour nous, et c'est ce que je répète souvent aux porteurs de projets, c'est vous les chefs d'entreprise. Donc vous êtes décisionnaires, c'est pas nous.
Ah bah oui.
Donc faites vos décisions, et nous on doit acquiescer. Et on leur apprend très vite à prendre des décisions, et à prendre des décisions qu'on aurait peut-être pas fait stratégiquement. Ou qu'on aurait peut-être vu autrement.
D'accord.
Du coup, il y a cette certaine frustration qu'on a, mais qu'on gère au quotidien, au gré de nos échanges du coup avec les collègues. Et ça, je trouve que c'est la particularité de travailler dans ce type de dispositif.
Oui, c'est que finalement, quelque part, tu accompagnes, mais les décisions, elles restent entre leurs mains, quoi.
Exactement. C'est ça le propre de l'accompagnement, c'est de orienter. Suivre, accompagner, mais en aucun cas se poser en tant que décideur ou même de se désengager à partir du moment où le porteur de projet ne prend pas la route qu'on lui a conseillée.
Oui.
Et de toute façon, c'est un travail qui est très biaisé puisqu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à ses objectifs. Et ça nous arrive souvent d'avoir des porteurs de projet qui sont et incubés chez nous et incubés dans d'autres dispositifs ou suivis par d'autres personnes. Qui viennent nous voir et qui nous disent bah, « En fait, moi, on m'a pas dit ça là-bas. On m'a dit ça, on m'a dit tout autre chose. »
Et qui sont un peu perdus aussi, des fois,
et donc,
j'imagine.
Parfois, ça peut être... Et donc, c'est là le défi pour eux d'incarner, du coup, c'est de prendre cette posture de chef d'entreprise et de décideur. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le choix. Nous, on vous a donné notre point de vue. Nous, on vous a donné ce que nous pensons être la voie la plus certaine pour vous. Et puis bon, après il y a plein de facteurs qui viennent. Enfin, moi je sais que dans mon approche je suis très pragmatique. avec une gestion des risques très très contrôlée, puisque je pars du principe que si j'accompagne un porteur de projet qui a potentiellement des freins, qui avait une période de chômage peut-être pendant un petit moment, je ne l'accompagne pas vers un truc qui va l'impacter négativement, que ce soit financièrement ou bien en termes de mental. Oui. Donc je préfère avoir une approche de l'entrepreneuriat qui est très safe, donc en pouvant très vite se mettre sur le marché, générer des premiers revenus, même si ce que tu vas proposer en tant que produit et service, ce n'est pas forcément le produit fini et l'ambition finale. Donc si je dois prendre un exemple, ça va être, je dis une bêtise, j'ai quelqu'un qui vient nous voir pour ouvrir un restaurant en plein centre-ville de Lille. Donc voilà, un restaurant, une ouverture de restaurant, ça contraint à de la formation, à de la labellisation, à du loyer à payer de local, de l'achat de matériel,
potentiellement des travaux.
Donc on est vite sur des projets entre 50 000, 200 000, 300 000 euros à financer. Et on est tout de suite sur de la gestion de l'humain, puisqu'on va pas faire ça tout seul. Ouais. Donc on est tout de suite sur des choses qui sont très très grandes. Donc ça, c'est l'ambition finale. L'idée, c'est pas de dire tu n'es pas capable, tu ne vas jamais créer ça. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que tu peux. Et puis surtout, il y a aussi le temps derrière. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un restaurant comme ça en 6 mois. Mais là, de se dire peut-être c'est quoi la première étape de ton entreprise qui peut faire en sorte que toi, tu peux te générer du revenu et que potentiellement, tu peux te générer un salaire très rapidement. Donc, moi, je vais peut-être les orienter vers une activité traiteur pour commencer en leur disant, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir énormément de matériel, vous allez avoir déjà des clients, vous allez pouvoir prototyper un service, un produit très, très rapidement.
Et
se faire connaître. Ouais. Réaliser, et en plus de ça, vous pouvez vous lancer en termes de statut juridique, sur des statuts juridiques qui sont beaucoup plus faciles à gérer, comme étant de la micro-entreprise. Et du coup, ça vous permet de vous former un petit peu sur le terrain. Donc, vous allez apprendre à gérer une petite entreprise, d'abord, générer du revenu, générer une trésorerie qui va pouvoir vous mettre un petit peu à l'abri en cas de pépin, et une trésorerie aussi, qui va être gage d'un premier investissement vers la deuxième étape du projet, qui va peut-être être un food truck dans lequel vous allez investir beaucoup aussi et que vous allez pouvoir proposer quelque chose qui s'apparente plus à un restaurant. Tout cela pour arriver au projet final de restaurant ou pas d'ailleurs. Le projet peut pivoter à un moment donné.
Oui, peut-être que le food truck en fait sera suffisant.
Exactement, peut-être qu'on va trouver d'autres opportunités. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur le marché très très vite et générer ses premiers revenus et pouvoir avoir une trésorerie le plus rapidement possible. Oui. Dans ce souci d'insertion professionnelle.
Quelque part d'autonomie, en fait.
Exactement. Ouais. Et de pouvoir aussi avoir des résultats rapidement et éviter aussi le décrochage. Parce qu'effectivement, entre le jour où on décide d'ouvrir un restaurant et le jour où on l'ouvre, il se passe beaucoup de temps. Ouais. Il peut y avoir potentiellement
plein d'aléas.
Beaucoup d'obstacles, beaucoup d'aléas. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de les engager sur un projet à taille humaine au départ. En tout cas, c'est ma vision à moi. Je ne la partage pas forcément avec tout le monde. Mais en tout cas, dans mon accompagnement, je pense qu'on a chacun nos particularités. Mon accompagnement, c'est de toute façon, je ne dormirai pas la nuit si j'accompagne quelqu'un, je dis une bêtise, qui est au RSA, qui n'a pas beaucoup d'épargne sur un projet de restaurant, sur lequel il va aller s'endetter sur des prêts d'honneur ou des choses comme ça, alors qu'on pourrait faire quelque chose de très petit. Je ne dis pas qu'il ne va pas aller emprunter de l'argent après.
Oui, mais en tout avec cas, de l'expérience, des choses à montrer.
Et il sera beaucoup plus convaincant puisqu'il y aura un début d'activité indépendante. Donc même s'il va frapper aux portes des banques ou d'autres dispositifs d'accompagnement, il sera beaucoup plus convaincant et beaucoup plus impactant parce qu'il aura déjà son début de projet et qu'il aura déjà généré un petit peu de revenus. Ça, c'est mon approche à moi. Mais forcément, il y a d'autres personnes qui vont plutôt être du style « non, sky is the limit ». Et c'est très bien aussi. Mais du coup, c'est une autre façon d'accompagner, c'est une autre réalité qui n'est pas forcément la mienne.
Ok. Voilà. Et quelque part, toi, ce que tu as envie, c'est qu'ils puissent assez rapidement être fiers aussi de ce qu'ils font pour que ça leur donne de l'énergie.
Exactement.
Et qu'après, ils puissent peut-être aller justement, peut-être à l'étape qu'ils visent, mais finalement, étape par étape, avec des petites victoires à chaque fois. Quoi.
L'idée, c'est pas d'arrêter de rêver. L'idée, c'est de faire quelque chose qui va être durable. Et moi, je sais que dans ma propre expérience, j'étais pas full-time sur mes missions. Et il y avait plein de petites victoires qui font qu'aujourd'hui, je sais que je suis en temps plein et je travaille limite 6 jours sur 7. Mais parce que ça n'a pas commencé comme ça. Mais parce qu'il y a eu des petites choses. J'ai changé aussi de service. J'ai changé aussi la façon de me présenter à mes clients. J'ai tenté d'autres choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est surtout le nerf de la guerre, c'est de vendre quand même. Continuer à vendre des choses pendant que tu essaies de construire le plus gros projet, en fait, derrière. Mmh. Et moi, je pense que c'est une approche qui est compatible avec notre public pour pouvoir l'accompagner de la manière la plus stimulante tout en garantissant une certaine sécurité derrière. Et puis on avait beaucoup de porteurs de projets au début qui nous disaient bah oui mais moi j'ai besoin d'une solution là, là maintenant tout de suite, j'ai besoin que vous m'aidiez à créer quelque chose là maintenant tout de suite parce que ben, je suis au chômage, ça va s'arrêter, ou j'ai envie de créer là, j'ai l'énergie. Quand ils arrivent chez nous en général, ils ont vraiment une énergie très forte de pouvoir faire quelque chose. Et si, en fait, on n'a pas quelque chose à leur proposer très rapidement à mettre sur le marché...
Ça peut les décourager.
Et donc, il peut se passer plein de choses qui font qu'en fait, ils n'arrivent pas du tout à leurs objectifs.
Ouais. Et puis qu'après, c'est compliqué pour aller les rechercher. Quoi.
Exactement. Ouais.
Et toi, du coup, les retours que tu as, les personnes qui sont accompagnées... Et aussi, je me demandais combien de temps... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une limite de temps dans le dispositif?
Alors, ils sont accompagnés... Alors, on n'a pas vraiment de limite de temps, mais tout le temps de la formation, en tout cas, ils sont accompagnés. On a ajouté à l'équipe deux consultants supplémentaires qui ont des casquettes bien précises. Donc, on a un coach en développement personnel qui vient appuyer justement ce travail sur le mindset, l'état d'esprit et aussi offrir un endroit en toute confidentialité dans lequel nos porteurs de projet, ils peuvent aussi exposer la réalité de leur quotidien, ce qui leur fait peur. Et donc, il a construit un programme spécialement pour réaliser tes rêves qui s'appelle « De l'homme au projet », qu'on pourrait dire « De l'homme au business », où en fait, c'est un programme en 6 séances dans lequel il reprend un petit peu la personne et il l'accompagne dans la création du chef d'entreprise pour arriver justement à l'incarnation du chef d'entreprise en prenant en compte ses craintes, ses peurs, son passé, ses défis du quotidien. Voilà. Et on a un autre consultant qui, lui, est plus orienté juridique et finance. D'accord. Qui vient bien compléter l'équipe pour s'assurer que juridiquement ils répondent absolument à tout et aussi construire tous les éléments financiers, notamment dans la création du business plan. Donc pouvoir faire des plans de financement, des bilans, des comptes de résultats qui soient vraiment précis en fonction des projets des porteurs de projets, des entrepreneurs, on peut dire ça comme ça. Nous on les appelle les talents.
Oui, les talents, c'est vrai.
Les talents. Et du coup, ta question, je me suis
rappelée. Oui, et après, du coup, j'allais t'en reposer. Tu vois, est-ce que dans les retours que tu as des personnes qui ont été accompagnées, comment elles ont vécu, tu vois, ce programme, qu'est-ce que ça leur a permis d'aller chercher?
Alors, c'est très rigolo parce que d'une cohorte, d'un groupe à un autre, il y a vraiment une atmosphère générale et il y a vraiment une énergie qui est... Une atmosphère différente, ou une énergie différente. Donc, il y a certains porteurs de projets qui sont rentrés chez nous avec une idée et qui sont ressortis avec une autre, totalement, par le biais des rencontres. Donc, il y avait quelqu'un, par exemple, qui est rentré avec une idée de restaurant, encore une fois, et qui est sorti pour faire de la sculpture sur bois. Okay. Absolument rien à voir. Mais il a... on fait des expéditions nature. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais on l'a emmené en expédition nature. Il a rencontré des personnes qui travaillaient le bois en pleine nature. Depuis, il nous a demandé une formation, de l'accompagner sur de la formation dans ce secteur-là. Donc, voilà. On a des personnes qui, en fait, ont créé, qui avaient un projet en rentrant et qui ont suivi les formations et qu'on a... Alors, nous, on ne les lâche pas en sortie de dispositif. On a ce qu'on appelle la phase d'envol où, justement, grâce aux partenaires... Et on a de la chance dans la métropole illoise, c'est qu'on est sur un pôle d'attractivité de l'entrepreneuriat. Donc on peut aussi créer des passerelles avec des partenaires qui proposent d'autres dispositifs, mais des dispositifs qui correspondent à un projet qui est déjà un petit peu plus évolué, ou vers des dispositifs d'incubateurs, enfin des incubations, voilà. Et donc on va dire que ces personnes-là, ils ont un parcours classique, ils viennent commencer à travailler sur leur projet chez nous, et puis ensuite, une fois qu'ils ont terminé le dispositif, on les oriente vers un autre dispositif pour qu'ils continuent à travailler, mais avec une autre équipe, avec d'autres moyens, d'autres choses. On a des personnes aussi qui nous disent « je me rends compte que l'entrepreneuriat, ça n'est pas pour moi ». Ou alors qu'on les amène aussi sur ce chemin-là, ou en se disant, ben écoute, peut-être que là, c'est pas le bon timing, peut-être que là, t'as les yeux sur autre chose, ou peut-être qu'en fait, finalement, tu peux très bien réaliser ton projet, mais par un contrat de travail classique. Mm-hmm. Et donc ça, ça arrive aussi. Et il y a des personnes qui sortent de là avec lesquelles on a essayé, ça fait écho à un appel que j'ai reçu cette semaine d'une ancienne porteur de projet. Il y a des personnes qui avaient des grands, grands projets avec des budgets à un demi-million d'euros,
oui.
Pour lesquels en accompagnement, on a essayé de pivoter sur des projets plus petits, justement dans cette démarche de on va vite sur le marché, on gère la trésorerie et on garde en tête le projet final à un demi-million d'euros. Mais qui ont été très très têtus. Alors, sans grande surprise, le projet à 1 million d'euros n'existe toujours pas. Mais j'ai reçu un appel d'une des. C'est un binôme de fondatrices. J'ai reçu un appel hier.
Ouais.
D'une des deux cofondatrices qui, en fait, a changé de projet et qui s'est associée avec son frère et sa sœur, si j'ai bien compris, et qui ouvre en tout cas un restaurant ce samedi. Donc elle était très très contente et ça on les a eus en formation en 2020-2021.
Ok.
Et donc elle m'a rappelé très fièrement pour me dire bah, écoute Myriam, le projet je ne l'ai pas ouvert pour plein de raisons, mais il est toujours là dans notre tête, mais on ne peut pas encore le financer, on n'a pas encore de local. Mais par contre j'ai un restaurant qui ouvre et qui s'inaugure ce samedi et on aimerait bien que tu viennes voir. Et donc, du coup, ce samedi, je vais aller découvrir le restaurant du porteur de projet qui n'a pas créé en sortant du programme, mais qui, en 2024, ouvre son propre restaurant familial. Donc, je pense qu'il y a ceux qui créent, voilà, qui ont fait le parcours mm-hmm. et qui sont accompagnés, qui savent prendre les ressources, qui ont les compétences au moment du parcours et qui peuvent, qui n'ont pas non plus d'énormes contraintes pour créer en sortant de parcours. Il y en a eu plein.
Mm-hmm.
Il y en a qui sont encore en train de se faire accompagner et trouver des solutions, notamment des solutions financières.
Ouais.
Puis il y a ceux qui sont sortis, que parfois on perd un petit peu de vue, mais finalement pas trop, puisque en fait, de temps en temps, ils reviennent vers nous. Et soit on les reçoit et on retravaille avec eux parce qu'il n'y a vraiment pas trop de limites. En tout cas, on n'a jamais été confronté à un moment où on était surbooké ou qu'on ne pouvait pas proposer une solution ou du moins un rendez-vous, un appel avec un porteur de projet, même quelqu'un qui est rentré au début 2020 sur le dispositif. Ou sinon, c'est de la mise en relation. Donc, ils nous appellent en disant bah, « Là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un dans tel secteur, je recherche un contrat là pour, parce que je ne travaille pas, mais mon projet est encore en stand-by. » Et donc là, c'est de la mise en relation. Ça peut être « Je recherche un logement, par exemple, et on les met en relation avec Vilogia, qui est notre partenaire. Mmh. » Pas gâche forcément d'avoir
un logement, d'avoir mais en un tout logement, cas, d'avoir un accès.
Et c'est ça,
déjà,
en tout cas, on fait ce qu'on peut pour les accompagner.
Mmh. À ce niveau-là aussi. Et pour toi, qu'est-ce que ça change aussi de faire cet accompagnement pour toi en tant que personne
au niveau vraiment très personnel?
Ouais.
En fait, ce qui est très enrichissant et en même temps très compliqué, c'est justement la gestion de l'humain dans tout ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'apporte beaucoup de... Enfin, moi, je trouve que c'est très gratifiant, en fait, de pouvoir mmh. accompagner des personnes jeunes ou moins jeunes. On a eu aussi on a eu des femmes entre 55 et 62 ans qui travaillaient sur un projet commun. Et ça a été aussi une aventure humaine très, très forte avec ces femmes-là qui ont... tout un passé très enrichissant, soit de maman, soit on avait une ancienne dirigeante d'une entreprise assez conséquente qui avait rejoint le dispositif parce qu'en fait, elle a eu un accident de la vie qui faisait qu'elle ne pouvait plus exercer dans sa carrière précédente, ou des personnes qui sont à la retraite mais qui ont envie d'avoir une activité. Donc, il y a des choses très, très gratifiantes à l'idée de pouvoir offrir un accompagnement et potentiellement des solutions à des personnes qui ont des aspirations, un projet ou parfois qui relèvent même du rêve.
Mmh.
Mais il y a ce côté aussi, encore une fois, très frustrant de, du coup, devoir gérer avec ces personnes les frustrations de se dire, en fait, je vous assure, ça serait bien qu'on fasse ça, ou ça serait bien que vous alliez à tel endroit, que vous appeliez telle personne, ou que vous vous concentriez sur ça pour pouvoir réaliser le projet, et qu'en fait, finalement, ça ne se fait pas, ou que le groupe peut se détacher, et puis finalement, on se dit, finalement, on n'y va pas et on le fait pas. Donc, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu les... Enfin, même si on demande à mes collègues, je pense, c'est les montagnes russes au quotidien.
Okay.
C'est vraiment ça.
Super. Et toi, Myriam, comment tu vois la suite pour toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire?
C'est une excellente question que je me pose très activement actuellement. Alors, je réfléchis à rester du coup avec des clients ou sur le secteur plus global de l'accompagnement à la création d'entreprise, parce que aussi passionnant soit-il, il est extrêmement énergivore, puisque justement on met beaucoup d'affect dans les relations qu'on a, dans les dizaines de projets qu'on accompagne, et j'aime bien la formation aussi. Mais voilà, je sais pas si j'ai aussi envie de... On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, d'être dans des environnements changeants.
Ouais.
C'est pour ça que je me suis lancée, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des clients différents. Et en fait, par engagement personnel, je reste très très fidèle à mes clients, RTR, les écoles avec lesquelles je travaille, l'université avec laquelle je travaille, avec très très grand plaisir. Mais je pense que j'ai besoin de changement aussi. Donc, dans un monde idéal, j'aimerais bien pouvoir garder ce que je fais aujourd'hui, mais peut-être avec un volume temps
un petit peu
plus inférieur.
Ouais.
Parce que j'aime bien ce que je fais, mais essayer de me tourner vers des projets différents ou bien même des projets plus persos. Dans laquelle je pourrais trouver cette nouvelle excitation de la nouveauté. Et c'est rigolo parce que mes amis, du coup, ça commence à savoir du coup, que je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc j'ai des amis, des proches, des anciens collègues du lycée, des anciens collègues tout court, qui reviennent vers moi aussi pour justement leur propre création de projet.
Okay.
Et donc, j'ai une de mes amies qui a un projet entrepreneurial qu'elle aimerait mener pour début 2025. Donc, je travaille, mais totalement de manière personnelle et c'est pas du tout économique. Enfin, je la considère pas du tout comme une cliente. Voilà. Je l'accompagne sur mon temps libre sur ce projet-là. Et puis, du coup, je me dis s'il y a un autre projet d'un de mes proches, notamment celui-là qui aboutit, pourquoi pas m'infiltrer, m'associer.
Aller voir d'autres choses.
Voir d'autres choses, voilà. Mais dans un monde idéal, j'aimerais bien garder ma situation actuelle et aussi de la nouveauté.
Ok, super. Voilà. Ben écoute, Myriam, je vois que tu vois, c'est un peu plus d'une heure qu'on discute. Le temps passe vite. Et en tout cas, je te remercie de tout ce que tu nous as partagé, à la fois sur ton parcours, mais aussi sur Réalise tes rêves, qui est un dispositif auquel moi je suis très attachée parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans le cadre du travail et moi de découvrir aussi ce que fait Réalise tes rêves. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on puisse mettre en lumière dans le cadre de cet épisode ce dispositif. Et donc dans ce podcast, à la fin du podcast, je pose toujours deux petites questions que je vais donc te poser. parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup... J'aime lire, j'aime la musique, j'aime le cinéma. Donc, j'aime un petit peu tout. Je refuse de choisir ce que je préfère. Et j'aime bien quand mes invités me donnent une recommandation de leur choix. Donc, c'est vraiment ce que tu veux en musique, en livre, en film, une série aussi.
Est-ce que ça doit avoir un lien direct avec...
Pas du tout. C'est juste toi, ce que tu aimes bien.
Alors, je réfléchis... J'ai plusieurs trucs en tête, mais qui sont très légers.
Mais vas-y, mais c'est très bien. Moi, j'aime tout. Je pense que voilà.
Alors, mon dernier film que j'ai regardé, alors ça va paraître peut-être très, très bateau. J'avais beaucoup d'a priori sur ce film, mais j'ai regardé Barbie.
Oui, Barbie.
Le fameux. Je ne m'étais pas refusé d'aller le voir, mais je pensais que Barbie serait Barbie.
Mm-hmm.
Et j'ai trouvé que c'était un film très sympa puisqu'il permettait de nous plonger dans un univers parallèle qui est le monde de Barbie, tout en traitant des questions sociétales de manière profonde et légère à la fois et avec beaucoup d'autodérision. Donc ça m'a permis de passer un très très bon moment en parlant de féminisme, mais pas que, de manière assez légère pour ne pas qu'on tombe dans un extrême ou un autre.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, j'ai trouvé que c'était très juste et c'était ma bonne surprise de la semaine.
Voilà. Trop bien.
Donc ça, c'est pour le film. Est-ce que je partage autre chose?
Comme tu veux.
Ou un...
Sens-toi libre.
Je réfléchis, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais je sais que j'ai eu des lectures qui étaient quand même très inspirantes ces dernières années, mais je n'ai pas les titres qui me reviennent. En musique non plus. Alors moi je peux partager peut-être mon album favori pour travailler.
Ouais, vas-y.
Qui n'est pas du tout dans mon type de musique non plus. Mais ça, j'ai découvert à Montréal. J'avais des gros problèmes de concentration. J'ai des problèmes de concentration. Et je suis toujours happée par mon environnement. Et donc j'ai trouvé que l'album version instrumentale de Lana Del Rey, Ultra Violence,
okay.
est un album qui arrive à me faire travailler et me faire concentrer pendant un certain temps. Donc c'est mon go-to album, version instrumentale ou version classique, d'ailleurs,
qui te permet de...
qui me fait beaucoup de bien malgré le côté très mélancolique et limite dépressif de...
Ouais, mais bon, de ça, ça te permet de te rassembler ton esprit, donc c'est cool.
Exactement, donc ça, c'est mon petit truc personnel.
Voilà. Super. Et enfin, Myriam, si tu avais quelqu'un à me recommander pour ce podcast.
Toute personne confondue, ouais,
tout
secteur.
Ouais, tout secteur.
Et ben pourquoi pas, on reste dans RTR. Pourquoi pas Catherine Dervaux, qui est pilote du programme Réalise tes rêves local, donc sur les Hauts-de-France, mais que j'ai appris aussi à connaître personnellement. Et je trouve qu'elle pourrait apporter un peu sa vision sur son parcours professionnel qui a un lien avec l'entrepreneuriat, mais aussi plus personnel. Moi j'adore discuter avec elle et je suis sûre que tu adorerais discuter avec elle aussi. Beaucoup de choses à offrir.
Super. Eh bien écoute, merci beaucoup Myriam. Ce fut un plaisir de discuter avec toi.
Merci,
en tout cas.
Claire.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.